morning edition from NPR News.
Let's see, he's on in the house.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous allons mettre dos à dos ou face à face les deux 9 mai, celui de Vladimir Poutine au Kremlin, celui de l'Europe à Strasbourg, la journée de commémoration de la Grande Guerre patriotique contre la journée de l'Europe, anniversaire du discours fondateur, et c'est avec Bernard Guetta qu'on va discuter de tout cela. Le bruit du monde le lundi, ce sont les notes vocales de Caroline Gillet. Ce soir, Anastasia et Ola, dont l'une et l'autre ont des nouvelles de leurs appartements quittés précipitation, et ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Le bruit du monde, la suite sous les radars, Sébastien Eugénie a trouvé la Sierra Leone qui veut dépoussiérer son droit, le Japon et son cinéma rattrapé par la vague MeToo et l'Atlantide enfin trouvé, enfin presque. 18h50, c'est le monde selon Joe Biden avec Sébastien Paour et les suites de la bombe lâchée par la Cour suprême sur l'avortement. 18h55, c'est le monde d'après de Franck Madvon et les Philippines prêtes à se jeter à nouveau dans les bras de la famille Marcos. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Bernard Guetta.
Bonsoir à vous.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député européen, bien sûr, mais aussi spécialiste et fin connaisseur de la Russie. Donc vous pourrez faire la jonction entre les deux 9 mai que l'Europe a vécu aujourd'hui. Vous ferez un petit peu la synthèse à la fois avec le discours de Vladimir Poutine et celui qu'on a entendu à Strasbourg. Diriez-vous que c'était la journée d'ailleurs Poutine contre l'Europe ou l'Europe contre Poutine, ou est-ce que c'est trop raide de le dire comme ça ?
C'est trop restrictif, je dirais, parce que d'une part, Poutine ce matin, moi, ce qui m'a frappé, c'est le sentiment de désarroi que cet homme donnait, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, pas un trait de son visage n'a bougé pendant les 10 minutes de discours. Il a pris en 2 mois et demi de guerre quelques années, vraiment. J'ai trouvé. Je ne suis pas du tout de ces gens qui diagnostiquent un cancer. C'est pas du tout ça. Je crois vraiment que 2 mois et demi de guerre, il a bien vieilli. Et deuxièmement, il n'a rien dit. Alors il y a eu les affabulations sur l'Ukraine qui voulait acheter, se doter d'une arme nucléaire. Ah oui, où ça, chez Franprix, à Monoprix, enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire, se doter d'une arme nucléaire, ça n'existe pas. D'autres bêtises, l'agression du territoire russe qui était en préparation, c'était une guerre préventive et tout ça. Alors, il n'a pas employé le mot guerre, enfin, c'était, je ne sais pas quoi, une riposte préventive ou quelque chose dans ce goût-là. Mais... enfin, monsieur le Président, tout de même, vous êtes depuis 2 mois et demi en guerre, même si vous ne voulez pas employer le mot, et vous ne tirez pas l'ombre d'un bilan de tout cela. Alors, pas rien.
Et c'est ça qui est effectivement presque déroutant. On a l'impression d'abord que nous avons presque, nous, occidentaux, presque fantasmé sur ce 9 mai et sur ce qu'il allait mettre sur le tapis, sur même le défilé à Mariupol, sur le vocabulaire guerrier, sur un vocabulaire proche du 24 février. Est-ce que, au fond, est-ce que c'est pas nous aussi qui nous sommes trompés sur ce qu'il allait en faire, en fait,
Bernard? Moi, je crois que beaucoup d'occidentaux n'arrivent pas à admettre l'idée que Poutine soit aujourd'hui en position de faiblesse. Or, il est en position de faiblesse. Et il l'est depuis le troisième jour de cette guerre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au troisième jour de cette guerre, on l'a vu s'adresser directement avec une colère froide aux généraux ukrainiens en leur disant, mais carrément, mais qu'attendez-vous pour prendre le pouvoir? Sous-entendu pour renverser ce président Zelensky, parce qu'avec vous, nous pourrions parler. Eh bien, en vérité, Monsieur Poutine s'attendait à ce que l'état-major fasse un coup d'état et organise un accueil en fleurs et en hurrahs à Kiev pour le président, etc. Et depuis le jour où il a constaté que non seulement c'était pas ça, mais qu'une nation en armes résistait à cette agression, eh bien en vérité, il ne sait plus quoi faire. Alors il multiplie, son armée multiplie les actes de barbarie, tous plus abominables les uns que les autres, véritablement tous plus abominables les uns que les autres, mais il ne sait pas quoi faire et il ne sait toujours pas quoi faire et de moins en moins.
Mais il aurait pu mentir, Bernard Guetta. Il le fait depuis le début. Donc qu'est-ce qui l'empêchait de mentir devant sa population ? Mais ça veut dire donner une narrative, donner un récit, faire ce fameux lien qu'il nous explique depuis plus de deux mois maintenant entre ce qui se passe en Ukraine et la fameuse guerre patriotique. Il aurait pu inventer une narrative, même si nous savons. Et il ne l'a pas fait. Même ça, il ne le fait pas.
Le lien entre la grande guerre patriotique, la deuxième guerre mondiale,
la suite
et
de la guerre contre les nazis, etc.
Ça, il l'a fait. Mais faire plus, c'était véritablement difficile pour lui, parce que au bout de deux mois et demi, bon, les Russes savent tous qu'il n'a pris qu'une seule ville. Mm-hmm. Il n'a pris qu'une seule ville. Bon, une émission contre Mariupol, mais Mariupol continue à résister, mm-hmm. peut-être pas pour très longtemps, mais enfin continue à résister. Et pour le reste, rien du tout. Rien du tout. À part les destructions massives et les morts, les blessés, et tout ce que nous... Et les viols... Enfin bon, bref. Mm-hmm. Et tout ce que nous savons. Alors, il peut pas dire aux Russes c'est la victoire. Il ne peut pas dire c'est la défaite non plus. Alors, il ne dit rien. D'où pas de bilan de cette opération spéciale. Mmh. Et qu'est-ce qu'il fait ? Alors, moi, je dirais qu'il délire, délire consciemment, mais qu'il ne dit rien. Mmh. Et moi, c'est ça véritablement qui m'a frappé. Et puis, je le regardais dans ce petit manteau. Vous avez vu les images ? Mmh. Ce petit manteau un peu étriqué sur lui, comme si...
Oui, c'est l'image d'un homme seul, au fond, d'un homme isolé, même, Vladimir
Poutine.
Ce
grand criminel, car c'est un grand criminel, c'est un abominable criminel, cet abominable criminel, ce matin, faisait vraiment petit bonhomme, pour ne pas dire... plus vulgairement, petit mec.
Alors, vous allez évidemment rester avec nous, Bernard Guetta. Je voudrais qu'on en dise un mot avec Sylvain Tronchet, qui est à Moscou. Bonsoir, Sylvain.
Bonsoir, Fabienne.
On vous a entendu dans le journal de 18h. Sylvain, vous étiez au milieu des moscovites, des Russes, pendant ce défilé. Et on a bien senti que la plupart des messages, malgré tout, envoyés par Vladimir Poutine, ont été entendus par toute cette partie de la population. Je pense à cette dame qu'on a entendue tout à l'heure dans le 18h et qui disait « Je comprends pas pourquoi, à nouveau, les nazis retournent à l'attaque ». Donc, preuve que cette propagande et cette narrative, auprès des gens qui étaient là autour de vous, elle a fonctionné quand même.
Ah mais parce que en fait, je crois qu'il y avait une erreur à ne pas faire. C'est sur la signification de ce 9 mai. Il n'y a pas plus russe que le 9 mai. Et singulièrement, depuis que Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, cette journée est une journée russe. Et c'était une journée, à mon sens, hein, en tout cas, à usage interne pour Vladimir Poutine. Le narratif qu'il a déroulé, qui est connu dorénavant, était un narratif à usage interne, une nouvelle fois, et derrière, effectivement, ce défilé, alors qu'il ne faut pas confondre avec le défilé du matin, qui est la parade militaire, ce défilé qu'on appelle le régiment des immortels, donc où les Russes viennent dans la rue avec un portrait
de leur père ou grand-père.
Sur un poteau, voilà, exactement, de leurs aïeux qui ont combattu lors de la Grande Guerre patriotique, comme on dit ici, où il y avait une foule immense, rarement vu dans Moscou. La mairie de Moscou revendique 1 million de personnes dans les rues. C'est probablement pas loin de la vérité, vu les images aériennes, hein, notamment, qu'on a vues. Et moi, ce que j'ai pu constater sur le terrain, ce moment était un moment pour les Russes. Vladimir Poutine a parlé au monde au début de la guerre. Aujourd'hui, il ne parle qu'aux Russes, il ne parle qu'à son opinion publique. Il ne s'adresse quasiment plus au monde, et quelque part aujourd'hui il a installé le pays dans la guerre. Nous sommes dans un pays en guerre, ici, en Russie, très clairement, et on n'en voit pas le bout, on ne sait pas où cela va. Il a expliqué ce qu'il sait dans son discours, que les terres du Donbass étaient les terres russes, et finalement c'était la dialectique qu'il tenait en 2014 avant l'annexion de la Crimée. Donc est-ce qu'on va à terme vers une annexion du Donbass, hein, leur rattachement à la Fédération de Russie? Il est possible que ce soit en tout cas son objectif, mais effectivement on ne voit pas où en est le bout.
Donbass un peu élargi d'ailleurs, merci beaucoup Sylvain Tronché, probablement Donbass élargi à la région. Moi, je me demandais si vous, qui connaissez si bien les Russes, Bernard Guetta, si ce petit bonhomme dont vous nous parliez, les Russes qui ont assisté à ce moment l'ont vu aussi.
Je crois que oui, parce que je ne crois pas que les Russes soient génétiquement différents de nous. Je crois qu'ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une cervelle pour comprendre. Et véritablement, cet homme, ce matin, ce criminel, était pitoyable. Pitoyable. Ce n'était pas véritablement un grand homme d'État triomphant. C'était exactement le contraire. Et une chose m'a frappé. Cet homme qui a eu tellement peur du virus, du Covid depuis 3 ans, c'est soudain mêlé à la foule. Mmh. Et il a ressenti le besoin, je crois justifié d'ailleurs, de s'humaniser en se mettant comme ça, dans les rangs du petit peuple, hein, vraiment du petit peuple, qu'il regardait jusqu'à présent à distance et de très haut. Là, il a essayé autre chose. Mais vous savez, il a installé le pays dans la guerre, oui, je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là, mais installer le pays dans la guerre, ça mène la Russie où l'armée est embourbée, peut-être pas éternellement. Bon, il peut y avoir un retournement sur le champ de bataille, mais j'y crois pas beaucoup, mais ça peut. Mais aujourd'hui, l'armée est embourbée. L'économie, ça va pas fort et ça va pas aller mieux du tout. Évidemment que ça ne va pas aller mieux du tout. La situation internationale, non, elle est pas bonne. La popularité de Poutine, je ne crois pas un mot des sondages nous disant qu'ils ont augmenté. Parce que, écoutez, moi, c'est très simple. Hein. Je suis russe. On vient sonner à ma porte. Bonjour, monsieur Guetta, nous sommes l'Institut Levada, etc. Est-ce que vous soutenez le président Poutine? Mais non, je ne le soutiens pas. Je l'aime. Que dis-je? Je l'adore. Ouais. Que donc, dis-je? Je l'adore.
Réponse 1, je l'aime. Réponse 2, je l'adore. Réponse 3, je l'aime énormément. Ce discours, Bernard Guetta, il n'ouvre qu'une porte diplomatique, en même temps, il n'en ferme pas non plus. Ça aussi, on peut le retenir ou pas?
Oui, absolument, absolument. Mais encore une fois, moi, je dirais le plein désarroi. Il ne sait pas quoi proposer. Alors, si, il y a quand même deux choses qui m'ont frappé. C'est qu'il n'a jamais prononcé le mot Ukraine. Pas une seule fois.
C'est vrai.
Le mot Ukraine n'a pas été prononcé. En revanche, Donbass, 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 à Thierry Arrigo, le front, hein, nos soldats qui reviennent du front, virgule, du Donbass.
Ouais. Donc, ça veut dire que le renoncement à l'ensemble de l'Ukraine, il est acté, c'est aussi ça qu'on entend.
Acté, je ne sais pas, mais c'est possible.
Parallèlement à cela, et quelques heures plus tard, donc à Strasbourg, c'est vraiment la mise face à face de deux récits. Celui d'Emmanuel Macron, en l'occurrence celui-là de l'Europe, dans cette journée particulière qui est une journée européenne. Un vrai discours européen rassembleur. Et en même temps, l'Europe aurait pu arriver beaucoup plus forte avec un sixième train de sanctions, avec des mots sur le pétrole qu'elle n'a pas pu avoir, avec la fin donc dans les 6 mois des importations. Et puis on s'est rendu compte ce week-end que non, ça marchait pas. Donc malgré ce qu'on nous a montré aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas aussi quand même, Bernard Guetta, en face d'un front européen qui est un peu craquelé par rapport à ce qu'il a été?
Non, je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout. Ce qui est important, ce qui se passe dans l'Union européenne aujourd'hui, c'est que l'unité tient. Alors évidemment, quand on en arrive à l'embargo sur le pétrole, et ne parlons pas du gaz...
Ce sera pire. C'est déjà pire et ça le sera parce qu'il y a d'autres discussions sur le gaz à venir.
On va voir. Le gaz, parce qu'en même temps, on cherche des solutions de substitution au gaz qu'on aura peut-être trouvé d'ici septembre. Etc. Bon. Mais en revanche, il y a deux pays, la Hongrie et la Slovaquie, qui non seulement dépendent, mais totalement, je crois, quasiment 100%, enfin très très fortement, du pétrole russe, mais en plus qu'on ne peut pas connecter qu'au réseau de distribution du pétrole qui existe aujourd'hui en Europe. Alors évidemment qu'il faut trouver des solutions, évidemment qu'on ne peut pas imposer, ça ne serait pas souhaitable, ce serait complètement absurde à la Hongrie de dire « bon bah écoutez, vous mettez la clé sous le maillasson, vous fermez toutes vos usines, etc. » Non, on peut pas. Ce qui est important, c'est de conserver l'unité. Et je vois que de semaine, pas de semaine en semaine, mais de 15 jours en 15 jours, bah, les sanctions s'alourdissent, que le front tient, que les livraisons d'armes à l'armée ukrainienne sont de plus en plus fortes et surtout de plus en plus conséquentes. Non, moi je dirais au contraire que le fait marquant, c'est que l'unité européenne tient.
Quand Emmanuel Macron, aujourd'hui, dans son discours, parle de revenir dans certaines décisions sur l'unanimité, faudrait-il que ce genre de décision rentre dans ce cadre-là? Ou dites-vous, au contraire, c'est typiquement ce genre de décision que nous ne pouvons, que nous devons, sur lesquelles nous devons garder l'unanimité?
Non, je ne pense pas qu'il faille garder l'unanimité. Je pense effectivement qu'il faut passer à la majorité qualifiée.
Mais sur ce genre de décision aussi, sur une histoire de sanctions, par exemple?
Sur ce genre de décision, il faut un consensus. Il faut un consensus parce qu'on ne peut pas imposer à un membre de l'Union européenne une politique qu'il ne puisse pas tenir. Mmh. C'est tout. C'est tout simple. Mais à part ça, on peut très très bien avoir une décision à la majorité qualifiée avec des exceptions pour tel ou tel pays, pour telle ou telle bonne raison, pas mauvaise raison.
Un dernier mot, Bernard Guetta, sur cette fameuse communauté politique européenne que Emmanuel Macron appelle de ses voeux. Enrico Letta, lui, parlait de confédération.
En reprenant l'idée de François Mitterrand.
Exactement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Emmanuel Macron a utilisé plutôt communauté pour éviter que les deux. Qu'est-ce que vous en dites? Emmanuel Macron assime en disant ça fera une Europe à deux vitesses. De toute façon, elle est déjà à deux vitesses. Qu'est-ce qu'on dit ça ?
Elle est déjà à deux vitesses, c'est vrai, sur l'espace Schengen, mais surtout sur l'euro. C'est absolument spectaculaire et dans bien d'autres domaines. On ne peut pas rêver aujourd'hui qu'une Europe qui serait demain à 34 ou 35 membres. Hein. Les Balkans occidentaux, les trois pays sortis de l'Union soviétique, etc. On serait à 34, je crois. Bon, on ne peut pas rêver que ces 34 pays aillent du même pas dans la même direction, tous en même temps. C'est absolument impossible. Alors oui, effectivement, il faut plusieurs vitesses. Moi, dans mon esprit, d'ailleurs, je ne prendrai pas l'idée avancée par le président cet après-midi, parce que je pense que formellement parlant, même si ce n'est que symbolique, tous ces pays devraient être dans l'Union européenne, mais que dans l'Union européenne, il devrait y avoir les cercles concentriques chers à Jacques Delors, ou bien la fusée à trois étages que je défends.
Ça fait des cercles encore plus petits à chaque fois qui finissent par se retrouver à six à un moment, les six d'origine. Croyez-vous, Bernard Guetta, que...
Pas les six d'origine.
Ou un peu plus.
9-12.
Juste une toute dernière question, parce qu'on me fait des signes de l'autre côté de la vitre. Diriez-vous que l'Ukraine peut se contenter de ça? Si on lui dit, vous pouvez pas entrer dans l'Europe, les gars, on est désolé, mais vraiment, vous n'êtes pas
je
au
pense
point.
Qu'il serait
parce que c'est
plus,
ça qu'on leur dit, en
qu'il
fait.
Serait plus habile, même si ça revient au même, en fait. De prendre le mot union pour tout le monde, même si l'union recouvre des réalités différentes.
Et merci beaucoup Bernard Guetta, on aura l'occasion de revenir sur tous ces sujets. Vous êtes évidemment le bienvenu, à très bientôt.
Merci, à bientôt.
Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter.
Et la suite ce soir, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet, comme chaque lundi, avec Anastasia et Ola, qui l'une ou l'autre ont eu des nouvelles de leurs appartements respectifs. Vous savez qu'elles les ont quittés évidemment dans la précipitation. Évidemment, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Logeni.
Des avocats du Sierra Leone tentent de faire annuler une loi sur le vagabondage qui date de l'Empire britannique qui est toujours appliquée.
Le Monde selon Joe Biden et Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, les Républicains rêvent d'une loi fédérale pour interdire l'avortement. Les pro-IVG s'inquiètent, eux, d'autres reculs sur le mariage gay, par exemple.
Et le monde d'après, pardon, parce que j'ai écrit Jean-Marc Four alors que pas du tout, vous êtes Franck Madvon.
Absolument,
ça m'a déstabilisé.
Ça,
bonsoir Jean-Marc, bonsoir Franck, allez.
Vous allez y arriver, oui, bonsoir Jean-Claude.
Je crois.
Bonsoir Fabienne, donc dans la famille Marcos aux Philippines, je demande le fils. Résultat pas encore officiel, mais Marcos Junior va être élu président. La crainte d'un retour de l'autoritarisme.
Allez, restez dans les parages, tout le monde. Le tour de la planète continue avec la playlist de France Inter. Voici Cannibal, Life is Dead. Voilà. Que de promesses réjouissantes. À tout de suite. You are a sister. You want me dead. Now I am dead, sir. I am upset. I want you dead, cause I am upset. Now you are dead, though. We are upset, so we want to live, but life is dead, so. Now you are dead, though. We are upset, so we want to live, but life is dead, so. I was saying that I
sir. You want me dead? Now I am dead, sir. I am obsessed.
Le bruit du monde est en Ukraine, comme tous les lundis, avec les notes vocales de Caroline Gillet. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Depuis le 24 février, Caroline, vous racontez ici les destins d'une dizaine d'Ukrainiennes et Ukrainiens qui vous envoient des notes vocales pour raconter ce qu'ils et elles vivent au quotidien. Et aujourd'hui, on est au bord de l'eau.
Avec Anastasia, qui rêvait de voir la mer depuis qu'elle a fui Kherson, à la hâte, Kherson, ville occupée par les Russes, où elle était menacée par les militaires. Elle avait réussi à trouver des passeurs pour traverser les lignes de front et rejoindre Odessa.
Nous sommes enfin à la mer, c'est pas la plage. C'est plutôt un territoire avec des restaurants. Il y a la place pour les petits bateaux. C'est trop joli.
Anastasia essaye de ne plus trop penser aux nouvelles qu'elle vient de recevoir. Il y a une explosion dans son quartier de Kherson et il faut se résoudre à ne pas savoir dans quel état se trouve son appartement.
Autour de ma maison, tous les magasins sont cassés et en fait, maintenant, il n'y a personne qui pourrait aller chez nous et vérifier au moins si les fenêtres ne sont pas cassées. Et on s'est déjà dit adieu à toutes nos choses qui sont restées là-bas. Par exemple, les vêtements. Moi, j'ai juste acheté une table pour travailler qui est arrivée au mois de février, il me semble. Je dois juste m'habituer et oublier de toutes les choses qui sont restées là-bas. Il faut juste recommencer la vie si possible.
C'était, il me semble, le lendemain, j'ai reçu ce message d'Ola, qui elle avait fui à l'ouest du pays et qui m'annonce qu'elle est rentrée à Kiev et que par ailleurs, ce jour-là...
Alors, c'est mon anniversaire, à peu près.
Un anniversaire en temps de guerre est un anniversaire un peu seulement. Surtout qu'Ola aussi tente d'accepter une nouvelle difficile. Elle est originaire d'Irpin, le quartier proche de la capitale, sévèrement bombardée. Et elle avait raconté ici qu'elle avait appris que son immeuble avait été touché. Quelques jours avant son anniversaire, elle était retournée voir.
On a eu de la chance quand même parce que nous avons quand même un appartement. Parce que dans les immeubles voisins, il n'y a que des trous au lieu des appartements. Donc nous, on a eu de la chance en fait. Mais ce qu'on a vu, c'était assez difficile à gérer, en fait, parce que toutes nos affaires ont été sur le sol. Donc, tous les vêtements, etc., tout ce qu'il y avait dans les placards, dans les tiroirs, tout était bouleversé, tout était sur le sol. Ils ont bu tout l'alcool qu'ils ont pu trouver dans l'appartement. Donc, il y avait partout des bouteilles. Et puis, ils ont volé plein de choses. Ils ont volé chez nous, enfin, toute la technique qu'ils ont pu prendre dans les bras, disons, dans les mains. Tout ce qui n'était pas trop lourd, donc c'était pas la machine à laver, disons, mais c'était tous les appareils photo, tous les objectifs, mes bijoux, tout ça. Voilà, ça c'était volé. Mais bon, les choses matérielles, ce n'est plus très, très important, disons. Mais je peux dire que les Russes ne sont pas très intéressés à la culture parce qu'ils n'ont pas touché les tableaux, ils n'ont pas touché les livres, le vinyle, ils n'ont pas touché mes instruments de musique parce que j'en ai beaucoup. Tous les instruments de musique ont été sur le sol aussi, mais ils ne les ont pas pris. Donc voilà. Et puis on était super attentifs parce que les Russes ont miné plein de choses. Donc avant d'ouvrir le placard ou avant d'ouvrir la porte aux toilettes, par exemple, on a tout bien regardé, etc. Parce qu'ils minent tout ce qu'ils peuvent, en fait. Parfois, ils minent les jouets des enfants, les lits des enfants, etc. Donc tu peux juste prendre quelque chose qui est sur le sol et tu peux être mort à cause d'une mine. Mais chez nous, on n'a pas trouvé des choses comme ça, heureusement. Voilà, donc on a pu faire un petit peu le ménage, on a pu quand même prendre quelques meubles, on a pris le lit, on a pris le matelas, les chaises, les choses comme ça, quelques assiettes, tout ça, pour déménager dans un autre appartement à Kiev, au centre-ville, là où nous voulions toujours habiter. Maintenant, les prix sont un petit peu baissés. On va surmonter tout ça, on va survivre tout ça et la vie continue malgré tout. nous essayons de vivre chaque jour comme si c'était la dernière journée de nos vies. Voilà, donc moi j'ai bien fêté mon anniversaire hier. J'ai invité quelques amis, nous avons bu du vin, on a mangé un gâteau, etc. On a écouté de la musique. Puis après, tous les invités sont partis vers 9h30 du soir parce qu'à 10h, c'est le couvre-feu. Voilà, donc c'est très confortable aussi que maintenant, les invités ne restent plus jusqu'à tard, comme d'habitude.
Ah bah comme ça, s'ils ne s'éternisent pas finalement, c'est tellement mieux que ça. Merci vraiment beaucoup à Ola, merci à Anastasia, merci à vous, Caroline Gillet. Toutes les notes vocales, évidemment, sont à retrouver sur la page de la chronique Notes vocales d'Inter sur franceinter.fr. À lundi prochain. Et nous sommes dans les rues de Freetown pour Sous les radars, Sébastien Logénie, la capitale du Sierra Leone, où des avocats ont décidé de s'attaquer aux vestiges juridiques de l'Empire britannique.
Un collectif de juristes militants, en effet, vient de déposer plainte contre le gouvernement du Sierra Leone pour mettre fin à une survivance juridique qui date du siècle dernier, la loi sur le vagabondage, mise en place en 1906 par les Britanniques, un texte jamais démantelé, toujours appliqué 116 ans plus tard. Alors voilà ce que dit ce texte. Toute personne flânant en plein air et n'ayant aucun moyen de subsistance visible doit être considérée comme une personne oisive et désordonnée, et elle est passible d'une peine d'un mois d'emprisonnement. Concrètement, les sans-abri, les vendeurs ambulants, les enfants des rues, les prostituées sont régulièrement arrêtés sur la base de cette loi, obligés de donner des pots de vin ou d'accorder des services sexuels s'ils ne veulent pas se retrouver derrière les barreaux. Un collectif d'avocats a donc déposé un recours le mois dernier devant la Cour de justice de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, estimant que ce texte était discriminatoire et contraire à la Charte africaine des droits de l'homme. Une démarche que regardent de très près beaucoup d'autres pays.
This is Mayeso Gwanda.
On entend là une campagne de sensibilisation lancée par une ONG américaine dans toute l'Afrique pour en finir avec ces textes archaïques. Le délit de vagabondage a été instauré en effet par tous les empires au temps des colonies, empire britannique mais aussi français ou portugais, et il s'applique encore à Maurice, au Nigeria, en Gambie, en Zambie, Ouganda, Botswana, aux Seychelles, au Ghana, en Tanzanie et donc au Sierra Leone. La décolonisation juridique de l'Afrique est encore loin d'être terminée.
Le cinéma japonais rattrapé à son tour par la vague MeToo.
Depuis plusieurs semaines, les accusations de harcèlement et d'agression sexuelle se multiplient dans l'industrie du cinéma nippon. Première révélation dans un journal en mars dernier contre l'acteur Hideo Sakaki, accusé d'avoir contraint plusieurs actrices à des rapports sexuels non consentis. Ensuite, ce fut au tour du réalisateur Sion Sono, accusé lui aussi de multiples agressions sexuelles. On entend là la bande-annonce de Cold Fish, l'un des films de Sion Sono. C'est une enquête journalistique qui a permis de libérer la parole. Depuis, plusieurs célébrités ont commencé à s'exprimer au Japon, comme l'actrice et mannequin Kiko Mizuhara, qui affirme dans une tribune avoir été d'innombrables fois victime de harcèlement sexuel. Le célèbre cinéaste Koreeda, Palme d'Or en 2018, lui a publié une tribune appelant à éradiquer, dit-il, les mauvaises mœurs sur lesquelles nous fermions jusqu'ici les yeux. Il aura fallu 5 ans depuis l'affaire Weinstein pour que le cinéma japonais commence enfin à faire sa mue. Le Japon résiste à la vague MeToo depuis des années. Seule une journaliste, Chihiro Ito, a réussi à briser le silence, mais la société, elle reste largement muette. Rares sont les Japonaises qui osent dénoncer le sexisme ordinaire et les policiers prêts à les écouter.
Et puis on termine par des chercheurs à deux doigts de retrouver une légende sous-marine.
Oui, il s'agit d'une...
Trouver ou découvrir plutôt.
Oui, c'est ça. Il s'agit d'une équipe de scientifiques travaillant à bord du Nautilus, un navire exploratoire qui se concentre depuis quelques semaines sur les fonds marins de l'océan Pacifique. Et il y a une dizaine de jours, leur bathyscaphe arpentait une zone très mal connue autour des îles hawaïennes à 3000 mètres de profondeur. Et c'est là que les chercheurs de la Ocean Exploration Trust tombent nez à nez avec une mystérieuse route de briques jaunes. Voilà, waouh ! On entend là en direct les exclamations du groupe de scientifiques, estomaqués par leur découverte, un étrange morceau de route, comme une voie pavée perdue au fond des océans. L'espace d'une fraction de seconde, l'équipe se demande, mais ne s'agirait-il pas tout simplement de la route qui mène à l'Atlantide? Mais oui,
bien sûr.
Mais oui, l'île mythique des Grecs qui alimente depuis des siècles tous les fantasmes. Je vous rappelle qu'on est comme là dans l'océan Pacifique, bien loin de la Grèce. Rapidement, donc, ils reviennent à la raison. Ce drôle de sol pourrait en fait s'agir partir de l'ancien lit d'un lac asséché recouvert de roches volcaniques. Les changements de température successifs auraient provoqué des fissures ressemblant étrangement à cette route de briques jaunes. L'Atlantide peut dormir tranquille.
Grosse déception.
Ouais, grosse déception.
Moi, je voulais revisionner tous les hommes de l'Atlantide en maillot de bain jaune.
Avec les mains,
vous savez que les briques jaunes, c'est plutôt Magicien d'Oz, en fait, aux
États-Unis.
Vous savez, ils marchent sur des briques jaunes comme ça, non?
D'accord.
Très bien. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez revenir demain. Voilà, voici Duran Jones and the Indications sur France Inter. Morning in America. Jones et The Identifications, Morning in America. Ben ça tombe bien puisque c'est effectivement le matin à Washington.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
Ou à peine plus loin que le matin, le monde selon Joe Biden et Sébastien Paour, une Amérique de Biden au bord d'un bond en arrière de 50 ans depuis les fuites, on en parlait ici même il y a une semaine, sur une possible décision de la Cour suprême qui annulerait le droit à l'avortement en vigueur depuis 1973. Pro et anti-avortement, Sébastien, depuis, campe devant le bâtiment de Washington.
Oui, des grilles de protection ont été installées tout autour et les démocrates tentent, eux, de sauver politiquement un acquis de presque un demi-siècle ici aux États-Unis. Le Sénat devrait se prononcer après-demain, mercredi, sur une loi fédérale qui garantirait le droit à l'avortement. C'est le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, qui annonce ce vote. Vote qui sera surtout symbolique puisque la majorité d'une voix des démocrates est trop juste pour que le texte soit adopté. Surtout qu'une poignée de centristes pourraient voter contre. Alors, Chuck Schumer essaie de convaincre ses collègues républicains.
Le Sénat américain va voter sur une législation visant à codifier le droit des femmes à se faire avorter dans la loi fédérale. Les républicains auront deux choix. Soit ils seront responsables de la destruction des droits des femmes, soit ils peuvent faire marche arrière et faire en sorte d'éviter ces dégâts.
Le patron des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, a annoncé, lui, qu'une loi fédérale pour interdire l'avortement serait peut-être possible si la Cour suprême confirmait la fin de l'arrêt de 73 qui fait de l'IVG un droit constitutionnel. Il met clairement la question sur la table en vue des élections de mi-mandat. On y sera dans tout juste 6 mois.
Mais alors, quelles conséquences aurait une annulation de cet arrêt Roe versus Wade, Sébastien?
Alors, ce serait aux États à décider et 13 d'entre eux ont déjà des lois prêtes à être dégainées pour rendre l'avortement illégal, dont le Texas, bien sûr, qui depuis l'automne dernier, vous le savez, interdit l'IVG au-delà de 6 semaines de grossesse. Mais il y a d'autres États conservateurs qui en ont aussi des lois. Floride, Oklahoma, Mississippi, Dakota du Sud. En Louisiane, les Républicains ont un projet de texte qui assimilerait l'avortement à un homicide et qui donc permettrait au procureur d'inculper les patientes. S'il est adopté par la Chambre et le Sénat localement dirigé par les Républicains, eh bien, il sera soumis ce texte au gouverneur démocrate qui s'est déjà prononcé contre l'avortement dans le passé. Enfin, si Roe tombe, cet arrêt donc, les associations se demandent si la contraception, par exemple, ou le mariage homosexuel, qui date de 2015 ici aux États-Unis, seront les prochains sur la liste.
Et alors, ce qui est vraiment intéressant, Sébastien, c'est que de plus en plus d'entreprises paient les frais de déplacement pour d'éventuels avortements.
Ouais, la liste de ces entreprises qui paient les frais pour sortir de son état et aller avorter là où c'est autorisé, parfois à 20 heures de route, on a eu ce genre de témoignage. Cette liste est encore assez courte, mais elle s'allonge en effet, et avec des noms très connus comme Tesla, qui vient de déménager son siège à Austin, au Texas, l'un des états donc en pointe contre l'IVG, on vient d'en parler. L'entreprise d'Elon Musk vient d'élargir son offre d'assurance maladie aux salariés qui auraient besoin de services de santé qui ne se trouvent pas dans l'état où ils travaillent. Même chose chez Apple, qui vient aussi d'ouvrir un campus, comme on dit chez Apple, à 1 milliard de dollars, toujours à Austin. Chez Amazon, on rembourse jusqu'à 4000 dollars par an pour des frais de déplacement si vous ne trouvez pas les soins dans un rayon de 160 km autour de chez vous. Et puis, pareil, chez le fabricant de jeans Levi's, 6 Américains sur 10 sont favorables à la légalisation de l'avortement, d'après les derniers sondages.
Allez, on termine avec un détour en Ukraine quand même pour terminer, Sébastien.
Avec la visite surprise de la première dame des États-Unis, c'était hier, jour de la fête des mères ici. Elle a passé 4 jours en Roumanie et en Slovaquie, Jill Biden, et elle est allée dans une école d'Uzhorod en Ukraine, près de la frontière slovaque. Elle a rencontré la femme de Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, qui n'avait pas été vue en public depuis le début de la guerre le 24 février. Les deux femmes correspondent, dit la Maison-Blanche, depuis plusieurs semaines déjà, et Jill Biden a apporté un bouquet de fleurs à son homologue ukrainienne.
Je pense qu'il est important de montrer au peuple ukrainien que cette guerre doit cesser, que cette guerre a été brutale et que le peuple américain est aux côtés du peuple ukrainien.
Voilà, c'est l'engagement diplomatique le plus important de Jill Biden depuis l'entrée en fonction de son mari à la Maison-Blanche. D'autres First Lady ont fait des visites aux troupes US stationnées à l'étranger dans l'histoire, mais peu ont été comme elle dans des zones de guerre. On peut citer Laura Bush, par exemple, qui est allée à Kaboul sans son mari en 2005. Elle avait rencontré des femmes en formation d'enseignante, elle avait donné des cadeaux à des enfants afghans dans la rue, et elle était retournée en Afghanistan en 2008.
Voilà, merci beaucoup. Le Monde selon Joe Biden. Tous les lundis dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Sébastien Paouan.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, aux Philippines, sans surprise, le fils de l'ancien président Marcos se dirige vers une victoire écrasante à la présidentielle. Son père, Ferdinand Marcos, avait dirigé le pays d'une main de fer, on le sait, pendant plus de 20 ans. Un régime marqué par la corruption, la répression de l'opposition. Ferdinand Marcos, junior, a surtout un objectif, réhabiliter son nom et le clan familial. C'est votre monde d'après.
L'histoire paraît folle, Fabienne. Comment le fils d'un homme qui a pillé l'État, imposé la loi martiale et tué des milliers d'opposants peut-il remporter l'élection présidentielle 33 ans après la mort du père? C'est donc sur cette énigme que l'on va s'attarder ce soir. Ferdinand Marcos Jr. devrait sortir vainqueur du scrutin. En effet, le scrutin qui s'est tenu aujourd'hui, après le dépouillement de 2/3 environ des bulletins, il compte 2 fois plus de voix que sa principale rivale, la vice-présidente sortante Leni Robredo. Il va ainsi succéder à Rodrigo Duterte, qui ne peut pas se présenter à nouveau et dont le mandat a été marqué, on le sait, par une guerre contre la drogue dénoncée par les défenseurs des droits de l'homme. Selon les estimations, 30 000 personnes ont été tuées ces 6 dernières années. Sa fille, Sara Duterte, prend le relais. Elle devrait, elle aussi, être élue aujourd'hui à la vice-présidence. Les deux scrutins sont séparés. Marcos Junior, donc. Il est âgé de 64 ans. Aux Philippines, on le connaît mieux sous son surnom de Bong Bong. Son itinéraire est bien sûr associé à celui de sa famille. Les Marcos ont été poussés à l'exil lors de la révolution de 86. Le peuple, épuisé par la corruption et l'autoritarisme, s'est alors soulevé contre la dictature. Les Marcos ont fui vers Hawaï, les valises remplies d'or et de billets de banque. Le clan aurait détourné entre 5 et 10 milliards de dollars, milliards, symbole du mode de vie extravagant de la famille. La collection de 3000 paires de chaussures de luxe d'Imelda Marcos, la femme de l'autocrate, aujourd'hui âgée de 92 ans et qui a bien sûr voté ce matin matin pour son fils.
Marcos Junior partait donc de loin pour accéder à la présidence, Franck.
Quand la famille Marcos revient aux Philippines en 91, elle doit d'abord répondre aux inculpations pour corruption. L'ex-première dame, Imelda, sera d'ailleurs condamnée en 2018 à une lourde peine de prison pour avoir prélevé des millions de dollars dans les caisses de l'État. Une procédure d'appel toujours en cours lui a permis de rester en liberté. Mais dans un pays où l'appartenance au clan dessine les carrières, le fils trouve naturellement sa voie en politique, comme beaucoup de membres de sa famille d'ailleurs, députés, sénateurs, gouverneurs. On le dit paresseux, peu au fait des dossiers, Marcos Junior dépense en fait son énergie à réhabiliter son patronyme. Ces dernières années, son camp a ainsi mené une intense campagne en ligne, TikTok, Instagram. Or, les Philippins détiennent le record mondial du temps passé sur les réseaux sociaux, 4h15 par jour, Fabienne, tenez-vous bien. Marcos Père y est présenté comme un héros de la Seconde Guerre mondiale. Sous sa présidence, l'économie était florissante, l'armée philippine était la plus puissante d'Asie. Voilà le genre d'absurdité répandue sur ces réseaux depuis des mois. Le pays est jeune, beaucoup d'électeurs n'ont pas connu la loi martiale et croient cette propagande qui fait des Marcos une dynastie glamour grâce à laquelle les Philippines ont connu un âge d'or.
Et alors, que peut-on attendre de la présidence d'un Ferdinand Marcos Junior?
Alors, difficile à dire. Bong Bong s'est employé à ne jamais vraiment présenter de programme. Il a fait campagne sur le thème aussi creux que rassembleur de l'unité des Philippines. Aucune des mesures proposées par Marcos Junior ne semble pouvoir répondre aux énormes défis auxquels est confronté ce pays de 110 millions d'habitants. Les Philippines ont terriblement souffert de la pandémie de Covid. Marcos Junior promet de lutter contre le chômage et l'inflation, mais ne propose pas grand-chose, si ce n'est une réduction de moitié du prix du riz, une mesure très difficile à financer. Au plan géopolitique, les Philippines sont à la fois proches des États-Unis et courtisées par la Chine. Marcos Junior serait le favori de Pékin, dit-on. Surtout, les opposants qui ont connu la dictature du père redoutent un nouveau tour de vis autoritaire. D'après Amnesty International, 70 000 personnes ont été tuées, torturées ou détenues arbitrairement entre 1966 et 1986. En 83, Benigno Aquino, un des leaders de l'opposition, avait été assassiné à l'aéroport de Manille dès son retour d'exil. Les Philippins peuvent espérer que Marcos Junior soit moins barbare, moins pourri, disons-le, que son père. Mais après les sombres années Duterte, son élection peut difficilement être interprétée comme une bonne nouvelle pour le pays.
Le monde d'après de Franck Madvon. Merci beaucoup Franck. Le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne juste avant. Il y a le journal de 19h d'Hélène Philly. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien, on revient tout de suite.